Charles Wayne.
Hey, bien, paper, glass, hey, ouh, je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Oui, je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. C'est la hype, on va te casser. Hey, je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Oui, je vais te creuser mon doigt dans l'œil. C'est la hype, on va te casser. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil.
J'ai même pas pensé à rien à dire. Fait que, c'est ça l'intro cette semaine. Hypoke Podcast, un digne enregistrement en direct de deux Chris de clown qui parlent de des choses. Le premier Chris de clown, c'est moi-même, Faberglass. Et le deuxième Chris de clown, c'est le dos d'à côté de moi, Grégory Saint-Pierre. Comment allez-vous, très cher?
Ben, je vais dire comme Madame Gagnon, il fait beau, il fait chaud, sortez vos maillots. Non, ben écoute, fait beau, man, commence à faire chaud. On a une carte hier, là, ça existait, là, comme tu dirais. Mais non, écoute, toi, je sais que c'était peut-être un peu différent là, dans ton hood à Grimby. La vie normale semble vouloir reprendre tranquillement pas vite. Là.
Veuillons ne pas parler de ça.
OK. Ben, en tout cas, ça va bien. En gros, ça
alors,
va bien.
Ici, on est juste trop proche de Montréal, fait qu'on est en zone rouge, fait qu'on ne peut pas aller au resto pour ces affaires-là, mais ouais, c'est bon. Il y a plus de monde dehors, mais dehors, c'est une drôle de place. Moi, j'essaie de pas trop aller là. Mais, OK. Ceci étant dit, comme tu as dit hier, on a une carte qui existait, mais je pense que c'est correct. Parce qu'on a eu une tabarnak de semaine. Genre, côté nouvelles, côté annonces, côté choses dont on doit discuter en longueur ici. Je pense qu'on a eu un bon assortiment de patentes. Et puis, ça fait qu'on va pouvoir consacrer pas mal de temps à ça. Puis, un peu de temps à la carte d'hier, mais pas tant que ça, Galice. Donc, on va commencer évidemment avec le sujet de l'heure. Khabib, qui est maintenant 100%. Retraité. Le pourcentage, tu vois, il variait, là, tu comprends, depuis son dernier combat, là, déjà, c'est au mois de quoi, octobre, septembre, octobre. Mm-hmm. En tout cas, une couple de mois, 5 mois, quasiment 6 mois. Et puis, ouais. Finalement, Dana a été tanné de lui payer des soupers très chers dans des restaurants pour se faire dire non à chaque fois. Et a fini par accepter le nom de Khabib. Puis de dire publiquement que Khabib était 100% à sa retraite.
Ouais, puis Khabib l'a clairement dit, lui, il est à retraite depuis 6 mois. Là. C'est juste Dana qui a décidé de mettre officiel hier. Là. Mais ouais. Tu voyais que Khabib, il a fait une petite entrevue avec Megan. Ça n'a même pas passé proche. Là.
Non.
On va se les vraies affaires. Là. Ben moi, j'ai jamais cru un retour de Khabib. Là. Pas, il y a peut-être un petit 2% là, à m'amener, là, mais. Puis clairement, je ne m'étais pas trompé, puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui avait peut-être la même opinion que moi. Mais comme je te dis, Khabib il est retraité depuis 5-6 mois. C'est Dana là, qui a juste soulagé sa conscience hier, là, je pense. Là. Shout out à Khabib qui a streamé le main event, le gros aussi, live à côté de Dana. Puis Dana, ça fait un mois qu'il dit ah, les streamers.
Depuis le début de l'année, à chaque pay-per-view, genre. Gros,
c'est rendu.
Là, on a pogné un streamer.
Ouais, c'est rendu que les gars, les journalistes, à la conférence de presse après le fight, ils demandent.
Qui t'en a-tu pogné un?
Ouais, puis t'as le gars même qui stream à côté.
Mais c'est tellement un gag, genre, j'ai l'impression que les journalistes, ils posent la question juste pour voir quelle astuce d'honnerie Dana va répondre. Check ça, les boys, ça va être drôle. Et puis Dana, dans notre spagnol, mais ouais, Khabib est 100% retraité. Les nouvelles qui ont rapport, qui sont venues avec ça, c'est le fait qu'on connaît maintenant l'identité des deux combattants qui vont se battre pour le titre vacant, parce qu'évidemment, Khabib qui s'en va laisser le titre vacant lorsque le combat de championnat va avoir lieu, puis c'est ça va être Charles Oliveira.
Donc, quand tu fais une annonce et Michael d'un titre majeur de même à 1h du matin, là.
Ouais, c'est. Ben, mais faut que tu te dises.
Dit long, man.
Faut que tu te dises qu'eux autres sont toutes à 3h de nous autres, là.
Ouais, mais Chris, quand même, Faber,
c'est vrai que c'est 10h du soir, tu sais.
Tu sais.
C'est juste à temps pour les nouvelles de 10h.
Ah, c'est ridicule, man. C'est ridicule. Juste le timing de l'annonce, tu le vois qu'ils le font, man, par... Je sais pas c'est quoi la crise de raison. Ah, gros,
Dana, là, il est... tu sais que Dana White, c'est quelqu'un d'impulsif, genre, quand même.
Ouais.
Fait que Dana White, il venait de sortir de son 14, 15, 23e souper avec Khabib, essayer de le têter. Puis c'était encore fait dire non. Puis il a dit, OK, c'est bon, là, j'ai compris. Puis il a sorti son crise de téléphone de sa poche, puis il a écrit sur Twitter... ça, puis il a texté les deux autres tatas, genre, hey, yo, veux-tu te battre pour la belt? Hey, yo, veux-tu te battre pour la belt? Yo, dit ouais. Puis il a texté les agents. Puis, genre, il a fait, ah, oh, ben, Chris, on a notre title fight, let's go, annonce-moi ça, esti, man. Puis là, ils ont annoncé le title fight pas longtemps après, mais tu vois que ça s'est comme vraiment tout fait, genre,
je pense
spontanément
que
un peu, puis je pense que c'est pour ça que, ça, que le timing là, de l'annonce, comme tu dis, il est tel, mais c'est vrai que c'est bizarre, man. C'est vrai
gros,
que c'est bizarre, man.
Quand est-ce qu'un title fight... Gros, on parle de la division des 155 livres, la division qui fait régner l'UFC depuis je sais pas combien d'années. Non.
C'est vrai que t'annonces ça à 10h le soir.
Tu crois pas ton produit, man, quand tu fais ça. Ouais. Gros, d'habitude, un événement majeur, c'est annoncé pendant un autre pay-per-view. C'est annoncé sur une conférence de presse. Il y a de quoi qui englobe ça, là. Tu droppes pas juste ça de même, mais c'est un mardi soir, man, dans la nuit de mardi à mercredi. What the fuck, le gros, là? Niaise-moi. Niaise-moi,
ouais.
Esti.
Ouais, c'est puis, ouais, en tout cas. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Ceci étant dit, qu'est-ce que tu penses du fight en tant que tel?
Bon, ça va être un bon fight. Ça va être un très bon fight. Ça va être un très bon fight. Oliveira mérite son title shot amplement. Michael Chandler, que j'adore depuis qu'il est arrivé à Bellator, je dois admettre qu'il a fait une très belle performance, mais je pense pas qu'il méritait sa shot au title. Mais le grand oublié là-dedans, puis ce que je me dis, c'est que les négociations du dernier fight ont laissé des traces. C'est Dustin Poirier, man. What the fuck, Dustin Poirier se bat pas pour la belt. Je suis un grand défendant de Conor, là, mais Oliveira mérite un titre, Dustin mérite un titre. Conor méritait pas d'être là. Puis faut croire que je pense que Dustin... J'ai beaucoup aimé le meme que, je sais pas si c'est Carl qui a fait, là, mais qui m'a envoyé. T'avais Dustin... T'sais, avec le meme de Drake, genre, qui est là, non, Drake, je veux pas la belle, mais tu vois les Red Panties,
les Red
man,
Panties, ouais.
Gros, c'est clairement, tu sais, il y a de quoi qui s'est passé, mais je peux pas croire que Dustin Poirier, qui est, selon moi, le Uncrown King de la division présentement, se bat pas pour la belle, c'est carrément ridicule. Il y a pas personne qui peut me convaincre de n'importe quelle façon que Dustin ne mérite pas un combat de championnat du monde. Impossible.
Ouais, mais c'est ça l'affaire. C'est que je suis vraiment perplexe par rapport à ce combat-là qu'on a présentement, le combat de championnat. Parce que, tu sais, Charles Oliveira, oui, mérite un title shot. Mais là, c'est pas contre quelqu'un qui, selon moi, selon des gens, Michael Chandler mérite un title shot pour ses accomplissements à Bellator puis sa première performance dans l'UFC. Moi, personnellement, mettons que Michael Chandler arrive dans une division qui est moins stack. Ou qu'il arrive, mettons, il arrive juste à 170, là, c'est un site où tu te demandes si Kamaru va se rebattre contre Leon, se rebattre contre Masvidal ou se rebattre contre Colby. Là, il arrive, puis il y a un gros win, puis il était champion Bellator. Là, tu peux l'insérer. Mais à 155 livres, quand tu as Oliveira sur une Wood Street qui n'a pas d'allure, tu as Poirier qui est clairement le numéro 1. Tu sais, je pense que même si Justin Gaethje a perdu son dernier combat, mérite probablement plus un title shot que Michael Chandler.
Tu fais ce
match-up-là
pour le
exactement.
Number one contender.
C'est ça, qui est un match-up qui avait des rumeurs. Il y avait des rumeurs que ça allait arriver, ouais. Tout le Chandler contre Oliveira et tout, mais
Fat
finalement...
Justin,
ouais, c'est ça. Mais fait que tant qu'à faire un match-up avec quelqu'un qui mérite un title shot, quelqu'un qui ne mérite pas de title shot,
ben là, tu
pourquoi
mets Connor Dustin.
Tu fais juste pas Connor Dustin 3?
Gros,
parce que non seulement c'est le combat qui va être le plus payant,
ben oui.
Pay-per-view-wise, puis tout, puis tu callisses une belt là-dessus, puis oui, je le sais que callisser une belt là-dessus ne va pas plus vendre de pay-per-view. Ils
non,
vont déjà vendre
déjà
beaucoup de pay-per-view avec la trilogie, puis la trilogie est supposée d'avoir lieu probablement au mois de juillet, est-ce que Ariel Helwani semble dire, vu que là, ils foutent le title fight au mois de mai. Mais c'est clair que le gagnant de la trilogie va se battre pour la belt. Il n'y a aucun c'est doute sûr. Là-dessus. Mais je comprends juste pas pourquoi tu ne fais pas juste ce fight-là pour la belt. Parce que Dustin
tant
Poirier,
qu'à faire,
genre, selon moi, le title fight, même si c'est pour le titre vacant, n'est pas super légitime si Dustin Poirier ne se bat pas dedans. Il n'y a aucun doute, je ne vois pas. La personne qui va gagner ça, je ne vais pas être capable de dire oh, cette personne-là est un meilleur lightweight que Dustin Poirier présentement.
Non. Dans aucune façon.
Fait que c'est juste ça mon problème. Puis justement, tant qu'à donner une ceinture, un title fight à quelqu'un qui ne le mérite pas. Calisse, donne-la à Conor McGregor.
Non,
anyway, le monde va
chialer. Je l'avais pas vu de même, mais t'as entièrement raison. T'as un gars ici qui mérite le titre, puis un qui ne le mérite pas. Tant qu'à ça, fais le. Gros, Dustin Conor.
Parce que tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord pour dire que le fight à faire pour la belt, c'est Poirier contre Oliveira. Mais ils ne feront pas la trilogie.
Non.
Tu comprends?
Non.
Oh, ouais. Tant qu'à ça, je le mettrais là.
Il y a bien du monde
aussi qui disent que, dans le fond, Dustin veut pas vraiment le title fight. Là. Il veut plus la trilogie.
Si la trilogie
n'est pas pour être pour la belt, il préfère la trilogie à la belt. Puis ça, je comprends. Je comprends juste pas pourquoi que la belt n'est pas avec la trilogie puis que tu fais pas, genre justement, Oliveira contre Chandler ou Chandler contre Gaethje puis Oliveira contre...
Tu sais, parce qu'on parle de Poirier quand nous trois, là. Es-tu d'accord avec moi là, qu'on va frôler, on va être dans le top 3 des pay-per-views, là, minimum dans le top 5?
En juillet,
en plein milieu de l'année, quand que les fans vont recommencer man, à remplir les shit, gros bisous, man. C'est sûr que ça va...
Top 5 peut-être, je ne sais pas si ça va dépasser les deux Diaz fights. Ça cotera absolument pas, moi, ça ne sera pas proche de Conor Khabib, ça je suis pas mal sûr.
Je suis pas mal sûr dans un top 5, mais tout ça pour dire, écoute, on l'aura pas. On va avoir le fight d'après moi en juillet. Mais comme j'avais pas vu ton l'optique de pas mériter avec un gars qui le mérite, tant qu'à ça,
c'est ça.
Vous ne l'avez échappé, ça.
Tu sais, si au moins tu me dis, genre, oh, mais c'est parce que si on a besoin d'un main event, d'un pay-per-view.
Tabarnak!
Je comprends, mais gros, ça va-tu vendre ça? Papa, à tout, là. Ça vendra pas. C'est les hardcore fans
trippent
sur
Charles.
Ouais, c'est ça. Les hardcore fans trippent sur Oliveira. Les hardcore fans connaissent Chandler depuis longtemps. Le monsieur, madame, tout le monde connaissent juste Chandler parce qu'ils l'ont vu, aucun doute. C'est la carte de Conor McGregor.
Exactement. C'est plate à dire. Mais écoute, on va voir, c'est un bon fight, là. Faut pas se le mentir. Par contre, là, je pense qu'on a un Chris de bon fight ici.
Ouais, le match-up est bon. Ça va être un bon fight. Il n'y a aucune manière que ça va décevoir. Il va sûrement avoir un finish, que ce soit une soumission ou un knockout, parce que Oliveira est rendu vraiment bon debout. Ouais. On sait c'est quoi son sol. Quand Oliveira perd, il se fait finir brutalement presque à chaque fois.
Puis quand Chandler finit quelqu'un, c'est souvent très brutal aussi.
Exactement. Puis, tu sais, Michael Chandler n'est pas à l'abri de se faire passer un asti de triangle random par Charles Oliveira non plus. Fait que, tu sais, il va sûrement avoir un finish. Ça va être bon, ça va être excitant. Reste à voir, ça va être quoi le restant de la carte.
Mais tu peux pas mettre ça en pay-per-view, mon chum.
Ben oui, clairement, tu peux parce que c'est ça qu'ils font. Mais. Sûrement avoir d'autres choses sur cette carte-là. Là. Mon gars, c'est bon.
J'espère, man. Mais toutes les autres champs, man, sont bookés. Tu sais, comment tu peux acheter un value ou un asset à cette carte-là? Là.
Ben, s'ils sont prêts de Blakovic, Teixeira.
Yann, il a dit qu'il prenait 6 mois de
l'air. 6 mois, ben Peter Yann, Aljo.
Oh!
Figueredo Moreno. C'est les deux combats qui sont pas... Es-tu booké?
Je pense qu'il est de sur une autre carte déjà,
je vais aller voir sur Tapologie.
Je pense que Chris, si tu veux mettre je serais
quasiment à game qui Chris Aljo dans le main event et ils le feront.
On parle du mois de mai, hein, ça?
Ouais, c'est 63, 263 Figueiredo Moreno.
C'est ça, il est déjà sur une carte.
Ok, ouais. Non, c'est ça.
Mais non, je pense que ton Chris Sterling Yann 2.
Nunes Peña,
fuck Peña, man.
C'est la seule qui elle mérite même pas tant non plus. C'est la seule qui veut, genre. C'est la seule fille qui est game de dire hey, moi, je la pognerais Nunes. Fait que donne-y Nunes, puis elle va se faire décoller. Puis on va encore être là à parler pendant 15 minutes de comment Amanda a aucun rapport, puis elle pourrait péter des boys. Puis tout le monde va être content, le gros.
C'est la seule, ouais. Mais c'est vraiment, genre, une des seules fois que dans. Mais tu sais, on sait la profondeur des divisions féminines, là. mais que t'es par défaut, t'es obligé d'aller chercher une fille, man, qui a aucun style de rapport là-dedans, là. Ben, oh, Julie Penny a vécu une chose, je sais pas trop son surnom.
Venezuela Vixen.
Ouais, gros, voyons donc, c'est boire. Et là, elle parle de comment qu'elle a battu Kat Zingano, il y a 12 ans, Calis, là, t'sais, est encore à fleur, et encore sur sa victoire de Kat Zingano, man, t'es genre Calis, décroche, là.
Ouais.
Mais...
Ça fait pitié un peu son trash talk est très cringe.
Mais là, tu m'as mis de quoi en tête, puis j'espère que ça va être ça, man. Old ouais, Joe qui en co-main là-dessus. Mais... Même Chris, je le mettrais peut-être en main event, mais ça arrivera pas.
Moi, je serais 100% à game que ça soit le main event de la soirée, là, parce que ça va être le combat que je vais beaucoup plus attendre des deux.
Mais ben oui.
Pour faire une transition parfaite, mais ô combien triste, le combat que j'attendais le plus des deux. Sur la carte de la fin de semaine prochaine.
Fuck.
Mais c'est celui qui n'aura pas lieu, tabarnak, parce qu'il y a quelqu'un dans le coin d'Alexander Volkanovski qui a le Rona. Le combat, malheureusement, de combat de championnat featherweight va être reporté à
l'extérieur.
C'est vrai de ça que tu vas mettre d'ailleurs en co-main event de Oliveira Chandler.
Ah, oh, c'est tout, je suis dans. C'est sûr que j'aurais aimé ça qu'on l'écoute en fin de semaine.
Ouais.
En boys, j'aurais aimé ça que c'était un ben gros combat. Là.
On va écouter Tyron Woodley, Vincente Luque à la place.
On va peut-être manger des edibles finalement.
probablement.
Ah, gros, mais j'espère, comme je t'ai dit, j'espère que Vince Luque, man, va bring the fight, man, parce que sinon ça va être un esti snooze fest. Mais je suis confiant en lui, d'habitude, il donne des bonnes prestations. Il va aller à côté Woodley, man, dans le fond de la cage, puis Woodley va swinger for the fence, man, puis. On va se rendre compte que Woodley il est fini.
Écoute, c'est au stade où c'est qu'il est rendu présentement, je ne sais pas si c'est un bon match-up pour lui, Vicente Luque. Non, arrête, je vais m'entendre. Je vais te muter si tu fais ça. c'est-tu de Tyrone Woodley?
Moi, plus du rap keb que du Tyrone Woodley.
Oui. Je déteste le rap québécois, mais si tu me donnes la chance en du rap québécois du Tyrone Woodley, il n'y a aucun doute qu'on va blaster du rap québécois, mon gars. Puis genre, le pire rap québécois, là, si tu veux. Là. Pas du bon rap québécois. Là. Genre, m'envoyer du rap de sous-sol, là, n'importe quoi. Il n'y a pas de stress. Mais... Non, mais c'est sûr que c'est un huge fucking letdown qu'on n'aura pas Volkanovski Ortega la fin de semaine prochaine. But still, on a Miocic Ngannou qui est un bon rematch. Ça va être le fun. Ça risque de cogner.
Écoutez, Condon le matin, le tabarnak.
C'est quoi ta prédiction finale? Je sais qu'on est à une semaine, là, mais c'est la dernière fois que sur le podcast, tu vas en parler.
Ben, j'ai mis de l'argent sur, Miocic, man, qui est encore négligé. Man. Puis ce gars-là, écoute... J'ai pick contre lui la dernière fois contre DC, man, puis il m'a fait ravaler mes paroles un peu. C'est sûr que je pense que c'était pas le meilleur fight de DC. Mais c'est sûr, écoute, Francis va arriver, man, puis on le sait, lui-là, là, il s'en vient t'arracher à la tête. Par contre, Miocic, souvent le monde l'oublie, très très bon boxeur, sûrement un des meilleurs boxeurs heavyweight qu'il a jamais eu.
Ben, écoute, sans aucun doute, là, en fait, là. Sans aucun doute.
Ouais. Puis il l'a battu, man. Puis je pense que le game plan ne sera pas différent, man. Tu vas pas te planter dans la pochette avec Francis. Tu donnes tes coups, tu sors de la pochette, mon gars. Tu prends tes angles. Puis à un moment donné, tu changes le vol, mon gars. Puis tu y vas, man. Tu y vas placer tes deux mains en arrière des jambes, man. Puis tu tires là-dessus, mon gars. Puis tu t'espères qu'il tombe, man. Tu embarques dessus. Puis tu y pousses sa tête. Gros, j'ai regardé le combat à Miocic, le premier, là. C'est parfait, man. Il l'amène au sol, man. Il pèse en arrière de la tête, mon gars, man. Il tient. Il donne une coupe de coups. C'était pas. Il y a eu des belles échanges spectaculaires, là, mais c'était beaucoup d'épreuves de force. Fait que tout ça pour dire j'ai du cash Miocic, je garde Miocic. Puis je vais y aller là, d'une prédiction, man. TKO, man, au troisième round. Pas un KO one punch. Il va le finir, man, à l'usure. Il va le finir versus la première fois. TKO troisième round, Stipe. Puis la retraite après.
Ouais, ben c'est ça, je m'en étais demandé. C'est quoi le, mettons, faut que tu me donnes un over-under de combien de combats CP Miocic il reste, là, selon toi? C'est quoi, 1-2, genre?
Ah, malgré que, ben ça dépend, man.
Il y a peut-être. Parce que, ben, s'il gagne, il serait vraiment à compte de pas au moins s'essayer contre John Jones.
Ouais, non, c'est vrai, j'avais oublié John.
C'est la personne, selon moi, qui a le plus de chances de battre John Jones.
Si Miocic bat John Jones, est-ce que c'est le greatest of all time?
Gros, il est pas loin, man.
Regarde, puis il est drôle.
Il est pas loin, man. Il n'y a pas les title defense, puis tout. Pis, mais il est pas loin, gros. S'il bat John Jones, il a battu Daniel Cormier deux fois. C'est le champion le plus titré de l'histoire heavyweight où personne ne garde sa belt. Puis lui, il a le plus de défense. T'sais. Aïe, aïe, man, pour vrai. Il serait...
a battu Dos Santos. Il a battu Kane?
Non.
C'est le seul qui n'a pas battu.
Ouais. Mais tu sais, non, c'est ça, il a battu tout le monde, là, basically. Là.
Moi aussi, je pense que c'est peut-être le seul gars.
Le meilleur heavyweight au monde après.
Ah ouais,
après,
ça, c'est
TP Miocic, là. Mais...
Ça, c'est clairement, man.
Autant bizarre que c'est, autant qu'à chaque fois qu'on y pense que ça fait chier de penser que Corey Anderson est probablement un top 3 là, est heavyweight. Mais c'est ça, Colin.
Des fois, ça fait mal à entendre.
Ouais, ça fait mal penser ça, mais c'est ça.
Non, j'avais Miocic. S'il gagne, comme tu dis, il serait vraiment épais de ne pas aller s'essayer contre Jones parce que, comme tu dis, je pense que c'est le gars qui a le plus de chances de le battre. On s'entend que le payday va être assez solide, les pay-per-view points. Puis la chance de peut-être, justement, devenir the greatest of all time, man. Fait que, il serait contre pas le faire, mais en même temps, s'il le ferait pas, je comprendrais.
Ouais. Puis aussi, l'avantage qu'il y a, Stipe, dans la GOAT Conversation, c'est que jamais tu vas pouvoir y reprocher de ne pas avoir été pour une deuxième belt parce que ce gars-là ne fera pas 205 livres.
Ouais, puis l'autre chose, big, entre moi et toi, lui, il fait pas des lignes, tu sais, pas, man, en pleine ville, c'est à 3h du matin. Gros, il est pompier, man, puis il torche les toilettes. Les toilettes à caserne. On parle pas du même type de personne.
Non, en effet.
T'sais.
Donc, sur la même carte, on a le deuxième combat probablement qui nous intéresse le plus maintenant qu'on a perdu Volkanovski Ortega. C'est Marc-André Barriot
contre
le frère patate Abou Azatar. Pour l'instant, on doit le dire, pour l'instant, c'est sur la main card. Moi, vu que je prends des notes là, tôt dans la semaine pour mes previews et tout, j'ai souvent la chance de voir les cartes changer d'ordre 3-4 fois dans la semaine. Là. Fait que pour l'instant, Barriot est sur la main card. On ne sait jamais ce qui va arriver puis qui vont décider de peut-être coalisser à sa place ou juste de le laisser là. Mais pour l'instant, Marc-André Barriot serait sur la main card, donc sur le pay-per-view de l'UFC 260 face à Abou Azatar.
Je suis content pour lui, là, mais on va dire vraies affaires. Là, ça n'a comme pas de bon sens. Là.
Ben,
vends-moi sa place là. Dis-moi pourquoi qu'un gars comme Charles Jourdain était pas... Bon, c'est sûr que Charles, il avait fait des performances, mais dis-moi pourquoi Barriot...
Sais-tu quoi? C'est tout relatif. Tout est relatif dans la vie.
Ouais,
Marc-André Barriot n'a pas nécessairement sa place sur la main card d'un pay-per-view de l'UFC maintenant, à cause de son record pis tout, mais quand tu regardes ça en relation avec la carte... Est-ce que tu préfères voir Jessica Penny contre Anna Goldie, ça, main card?
Jessica Penny is back, man, après...
Ou tu préfères voir Aboubakar Nurmagomedov contre quelque chose Gooden, genre c'est John Jared, je ne sais pas trop. Jared, c'est pas Gordon, en tout cas. Josh Gooden. Ou encore, tu préférerais la bagarre des noms de famille entre Modestus Bukauskas et Mikhail Oleksychuk? Fait que dans le fond, quand tu regardes ça, l'UFC, c'est quoi les combats qui vont nous amener de l'excitement. Genre, ouais, c'est le ça, fun okay. Sur la main card. Ça va être des bons brawls back and forth. C'est Barriot contre Azatar. C'est Jamie Mullarky contre Kama Worthy. C'est... Parce que, tu sais, sur cette carte-là, basically, des combats avec des combattants qui ont des noms connus, t'en as trois. T'as le main event. T'as le co-main event qui est Tyron Woodley contre Vicente Luque. Puis, t'as le combat qui est juste en dessous, qui est un combat entre Seb Mani et Grégory Saint-Pierre, c'est-à-dire Tomas Almeida contre Sean O'Malley.
C'est vrai, man, il va falloir que je parle à Seb. Je pense qu'on va mettre un peu de cash là-dessus.
Ouais, ben, je sais pas à quel point Seb est gambler, mais si c'est des petites sommes, il va peut-être être down. Ceci étant dit, qu'est-ce que tu veux mettre d'autre, genre, sur la main card qui va pas? Parce que tu peux mettre Aboubakar parce qu'il s'appelle Nurmagomedov, mais est-ce que s'il gagne son combat, ça va être plaisant? Parce que tout le monde qui se bat contre Khabib sans être Khabib n'a pas nécessairement le style le plus plaisant pour les partisans.
Général. T'as entièrement raison. Non, mais fait tu m'avais bien vendu.
Barriot, c'est vrai que... Barriot mérite absolument sa calisse de place esti sur la main card de ce pay-per-view-là.
T'as raison. 100%. Tu m'as vendu, c'est bon.
Mais Abou Azatar, il est genre bon, là. Mais tu sais, dans je sais qu'on ne l'aime pas vraiment parce qu'il se bat contre Barrio, puis lui, il a fait des tests pour genre des vraies affaires, comme pas genre une substance. Pas une petite substance random que Caruso Sadat pogne pour ça, il te suspende même pas. Mais
lui, dans son sac, c'est pas des patates.
Ouais, exactement. Il n'y avait pas des patates dans son sac, contrairement à son frère. Mais en tout cas, c'est ça. Il nous donne pas un bon vibe, là, les frères Azatar. Fait que je comprends que ça, on l'aime pas. Mais le gars, ça reste un bon jambon qui est un bon middleweight de milieu de division qui va soigner des mains, va essayer de knocker son adversaire. Puis,
c'est il va pas faire des caresses à Barrio dans la cage.
Peut-être, parce que c'est pas mal les deux modes que les brawlers middleweight ont. C'est genre, j'échange des combinaisons pendant 10 secondes. On je clinche 30 secondes dans la cage parce que je veux pas manquer d'énergie. Mais, tu sais, c'est un combat qui... tu sais, reste à analyser là, les spécifiques du match-up et tout. Mais Chris, c'est un combat qui va se disputer où Barrio a tendance à vouloir disputer ses combats là, généralement. Puis ça risque d'être...
Un bon feedback moi, pour Barrio, man, en fait, ça même. Ça.
Ben, moi, tout. Là.
C'est son style de match-up, ça. Je pense qu'on pourrait revoir le Barrio, justement, de sa dernière performance ou des beaux jours à TKO. Là. C'est, comme tu dis, c'est deux brawlers. Puis on sait, bah, Barrio, quand ça clinche, moi, je voudrais pas être dans le clinch avec Barrio. Là.
Non, c'est ça. Fait que, puis c'est probablement justement les moments où Azatar va essayer d'aller se reposer. Ouais. Il va finir le dos contre la cage à manger des uppercuts dans la face.
Ouais.
Je suis pas sûr qu'il va trouver ça super reposant.
Genre, honnêtement. C'est Barrio, man, quand il te clinche ça, mon gars, puis il commence à te uppercut ça, man, tu le nez, puis ça doit. Ouais.
Ouais. Puis je voulais savoir vite là, ton pic, bien que je pense que le pic est évident ici, là, pour entre Thomas Almeida et Mentally Undefeated Sean O'Malley.
Ouais, man, mon boy qui s'en va mettre sa fiche undefeated on the line. J'espère qu'il n'aura pas fait d'héroïne cette semaine.
De toute façon, il tomberait jamais accro à ça parce qu'il est pas cave, man.
Non, non, mais au-delà des derniers mois là, où Sean O'Malley l'a échappé un peu, là, je vais l'admettre.
C'est genre une course entre lui et Jorge Masvidal pour voir c'est le qui qu'on aimera plus le plus rapidement. Genre.
Ouais, ouais. Mais je vois, écoute, si jamais Sugar Sean perd contre Thomas Almeida, arrête les arts martiaux mix là, tout de suite. Concentre-toi sur le BJJ ou d'autres shit là, ou sur ton Twitch. Mais c'est triste de voir Thomas Almeida. C'était triste de le voir avant son arrêt prolongé. C'est encore plus triste de le voir quand il est revenu. C'est un gars qui avait... Chris, man, il était bon, Chris. Je sais pas ce qui s'est passé avec ce gars-là, là, mais le percutant KO, je pense, de Garbrandt, je pense, qui a enlevé une couple de pourcentage de batterie sur son âme, son menton. Mais
son âme aussi, man.
Je vois un finish, là, parce un que finish pour vrai, à Sean O'Malley. Là.
Parce qu'à son retour là, contre Jonathan Martinez, c'est pas son menton, on dirait, qui a été son plus gros problème. C'était vraiment plus son âme.
Ah, genre,
il avait plus
ça,
l'air
là.
De Thomas Almeida, il avait juste l'air de combattant de Muay Thai brésilien A, genre dans la cage, qui est là à faire des choses, mais il avait plus, c'était plus Thomas Almeida, il avait comme plus son identité.
Shout out à Rush qui dit O'Malley sera toujours invaincu dans mon cœur. Shout out, bro.
Shout out à Sean O'Malley, man. Quel est-ce de... Le Tekashi 6ix9ine du MMA. Oh, il se rapproche de plus en plus du 6ix9ine du MMA en plus.
Ah, pas long, on va se mettre à sneaker.
En parlant d'héroïne avec son pépé dans les mains, man.
Fond de la sauce.
Ça, c'est John Jones, par exemple. Ouais. C'est de même qu'il n'a jamais été suspendu. Je veux continuer à collaborer avec Shadow. Ouais. Hey les boys, j'ai entendu dire que t'as le double là. Barrio, peut-être de la starine, là, il a pris des suppléments différents, là, checker testé là.
Que John Jones, c'est qui Marc-André Barrio? Oh,
probablement, même, fort probablement. Ceci étant dit, je pense que c'est le moment de parler de la carte d'hier.
Oh boy.
Une carte comme tu as dit au début, ça a vraiment existé. Il y a eu des cas, il y a eu des affaires qui sont arrivées. Le problème, c'est que ton co-main event, c'était Song Kanan contre Max Griffin. Écoute, tu sais...
On avait un bon, sauf le Riddle.
The Romans encore volé, genre le combat que j'avais le plus hâte de voir sur la carte. Puis c'était le seul combat que j'avais vraiment hâte de voir sur la carte. Mm-hmm. Puis en rétrospective, j'avais raison. Puis j'étais pas excité pour le main event, plus à cause de Derek Brunson qu'à cause de Kevin Holland. Finalement, j'avais raison de ne pas être excité pour Derek Brunson, puis j'avais raison d'être excité pour par Kevin Holland, parce que même quand il arrive, puis il ne se bat même, tu sais, il essaie même pas une fois de gagner Yo! Dans le crise de fête. Il prend ça quand même
fucking. Dans la cabine dans le coin, le petit gros cabine, mais quand. Gros, bat-toi, il est
en bas de
toi. Il a donné un trick. Il a donné un truc pour un takedown, esti, pis Chris, il a réussi à mettre Brunson sur son dos, pis il est comme, oh yeah, here we go! Genre, tabarnak!
C'est un malade, mais pour vrai, mais... genre, parenthèse sur le site, Khabib, early contender pour le coach of the year, là.
C'est le coach of the year,
man. À date, mais bref, ceci étant dit, ouais, Kevin Holland, mon gars, c'est un
esti
de show sur deux pattes, mais c'est parce que oh, j'ai vu 200 000 takes, OK? Sur « Ah, oh, Kevin Holland ci, Kevin Holland ça. » Le plus bizarre de la gang étant probablement celui de Dana White là, qui dit que oh, il a brisé mentalement sous la pression. T'es genre big, il y a personne qui avait l'air moins stressé que Kevin Holland. Puis,
je pense que ce que le monde... Danser, man, en ouais. rentrant, man, dans la place.
Puis ce que le monde ne comprenne pas, là, c'est que Kevin Holland, il n'est pas comme tous les autres fighters d'MMA. Tu sais, la majorité des fighters d'MMA, c'est genre, oh, sont vraiment là, focus, puis mindset, puis oh, je veux gagner, puis je veux aller là, puis donner ma meilleure performance pour gagner, pour monter les échelons, pour devenir un champion. Pour Kevin Holland, il est juste là pour se battre 5 fois par année, puis ça a donné qu'il en a gagné 5 l'an passé, fait que là, il y a un méga push. Mais il va peut-être finir 1-4 ou 2-3 cette année là, dans ses 5 combats, parce qu'il sent encore les siens, puis il est juste là pour se faire du fun, puis il a essayé contre Derek Brunson, il s'est rendu compte assez vite qu'il n'allait pas gagner, fait que c'est juste fait à la gueule tout le long, puis il s'en est collé ses bien raides, puis il a parlé à Khabib Padena dans son coin, puis il a eu bien du fun, puis il n'y a pas de problème avec ça, lui. He lives to fight another day, puis tu sais, il n'y en a pas de stress, tu comprends? Il a l'air de s'en contre-colisser bien raide. Fait que je comprends pas pourquoi tout le monde est là, c'est comme de trouver une raison à pourquoi. Il est juste de même. Quand il gagne, il parle, puis il gagne. Puis quand il perd, il parle, puis il perd.
Si Sean O'Malley est 6ix9ine du MMA, est-ce que Kevin Holland est Lil Pump? Tu sais, du MMA, la gueule, il arrête pas, man.
Peut-être, man.
Même que des fois, ça est déconcertant. T'es genre, tabarnak, vas-tu s'enfermer à la gueule des fois, là? Mais comme tu dis, c'est un crise de show, mais je pense pas que c'est un bon show pour les... Nous autres, on trouve ça drôle. Je pense qu'on est capable de voir ça d'un autre angle.
Oh,
il y a du monde hier là, qui devait capoter puis se dire tabarnak.
Oh, oui, il y a bien des puristes, là, mettons. Là, je sais que Dana White, là, il a pas aimé ça, du début à la fin.
Lui, il n'y aura pas un autre main event tout de suite. Là,
ouais, lui, Dana White, le jasé. Lui, même Dana White, se donne un câlin au début d'un round. Là, au début du
il est en tabarnak.
Il y a trop de high five pendant le combat. Il dit « King de fif, arrêtez de vous high five, calice ».
Ouais, que... Mais Kevin Holland hier, son étoile a parlé un petit peu. On va se dire des vraies affaires. Là.
Oui,
mais Chris pense... de Derek Brunson qui garde sa ceinture, man, de best gatekeeper, man, du UFC, mon gars. Puis s'il te plaît, Big, là, remets-toi les cheveux de la bonne couleur. Là. C'est... ça marche pas. Là. Même. Il y a des affaires qui. Ça marche pas. Puis ça, je sais pas.
Ouais.
Ça marche mais il a gagné ici. Ah, puis gros, Holland essayait d'y parler après le faire, puis tu voyais que l'autre était comme décaliste, ouais, je veux rien avoir à faire avec toi.
Ah non, c'est ça, tu vois que la personne la plus annoyed, c'était Dana White, la deuxième personne la plus annoyed, c'était Clima Derek Brunson.
Ah, il y en avait plein de cul, mon gars. Mais imagine, là, tu sais, il n'y a pas eu de conférence de presse, de style d'affaires, man, parce que... Une semaine, ben, un fight week de Kevin Holland, c'est le fun, ça.
Ouais, c'est le fun. C'est beaucoup de Kevin Holland, par exemple. Mais c'est.
Ouais.
Le gars, il est hilarant. Va te dire un paquet de petites niaiseries. Va te dire qu'il a appris gros. Il a appris à se battre en MMA pour rob des drug dealers, là.
Ouais, il écoute.
Parce que. Puis finalement, il a fait genre, ben non, je vais me battre là-dedans à la place de faire genre genre commettre des crimes. Si je vais essayer de gagner de l'argent là-dedans. Je
suis pas pire. Il dit que dans ses temps libres, il a son char, il s'est acheté un char puis il s'est fait tatouer, man. C'est ça qu'il a fait en 2020. Il a gagné des fights, il a gagné des win bonus puis il s'est fait tatouer.
Puis il s'achète des souliers, man. Let's go. C'est des souliers à 1300$. Des Nike Pikachu and shit, là, man. Let's go. Mais regarde, moi, je suis bien down avec ça, man. Mettez-moi là pas dans des main events parce que synchrone, c'est vrai que ça peut devenir redondant. Là, après, tu sais, au début, j'étais genre, oh, si tu l'as rendu, puis après, j'étais genre, à la fin, j'étais
genre. Oh, 3, là, genre, gros.
J'ai compris.
C'était quasiment, man, si tu disais, Chris, viens-tu faire un show d'humour, Calis? Y a-tu oublié, tabarnak, qu'il fallait qu'il se batte?
Ouais, ben c'est là, ça, Chris? C'était comme un moment donné, j'étais comme, c'est correct que tu parles, mais essaye de te battre, s'il vous plaît.
Ben, c'est ça qui arrive, gros.
Essaye au moins d'un peu gagner le combat.
Ouais,
dis que la mort que tu veux dire après. Mais là, hier, il a juste parlé puis il s'est pas battu.
Non, mais tu l'as dit, man, aussitôt qu'il a vu que ça marchait pas, on dirait qu'il a fait, ok, bon.
Ouais, tu sais, dans le coin.
Je vais faire ce que je sais faire, je vais laisser aller ma gueule, puis.
Ouais, mais gros, dans le coin, là, il dans son coin, justement, entre le 4 et le 5, je pense, il était là avec eux. Faut vraiment tu chopper. Il était là, Chris, j'essaye les boys, là, il est juste vraiment à l'eau. Puis si j'étais capable de qu'il fasse pas ça, ben je l'empêcherais. Mais visiblement, ça fait 4 rounds qu'on voit que je suis pas capable. Fait que tu sais, j'ai vraiment vu un gars honnête de même dans son coin. Ouais, ouais. Il est différent de tous les fighters. Des fois, les fighters, ils ont comme tellement un tunnel vision.
Yes, sir.
De là, pourquoi tu vois des astidoudes genre. C'était qui, je pense, c'était Alexander Hernandez, là, pour faire exprès, là, qui était fucking surpris là, d'avoir perdu contre Thiago Moises. Pourtant, si tu as checké le fight, c'était assez clair là, que c'était pété pratiquement les 3 rounds. Mais les gars sont tellement genre tunnel vision qu'ils sont pas vraiment self-aware, genre.
Chalot, t'as des gars comme Easy, comme Ben Askren, le gros qui take le L, mon gars, comme des champs, man, pour vrai, man. Chalot, t'as ces gars-là, je sais que c'est pas facile. Mais un gars comme Kevin Holland et tout, justement, hier avec Chris. Mais quoi tu veux?
Mais c'était à se demander si ça le dérangeait, genre.
Ouais, lui
ça,
il avait l'air de
ça. Il avait juste l'air de ça contre-coller, man.
Ben, juste finir Kevin Holland, il y a une affaire que je suis bien content d'entendre. Puis je pense que ça peut venir mettre un peu de spicy. Il a parlé de peut-être un nutritionniste puis d'essayer à 170. Chris de division, man, que c'était la division dans le temps de George. Puis là, man, le gros, c'est. Personne veut se battre contre personne, tabarnak, pis t'as Steven Thompson qui est là. Hey, moi, je veux me battre.
Il veut se battre contre tout le monde, pis tout le monde est gros. Genre, ouais, un peu trop dangereux pour toi, pis trop de risques que ça soit plate. Fait que
ben ouais, pis je sais qu'il y a eu des title shots, mais tabarnak, si personne veut se battre, Calis, donnez-y. Fait man, de rajouter un esti de Kevin Holland qu'on s'entend que tu lui donnes. Gros, il va prendre Gilbert Burns, il va prendre Covington, il va tous les prendre, je te dis pas que ça va bien aller. Mais tabarnak, au moins, on va voir les top 5 de cette division-là se battre à m'amener. Ça n'a pas de sens.
C'est vrai qu'il n'y a aucune division où personne affronte personne comme
gros, c'est dégueulasse. Welterweight. C'est ridicule. J'ai vu hier un call-out de Belal. C'est qui qui a call-out de Belal? Ah, oh, c'est Kevin Holland, justement.
Bon, regarde, let's go.
T'es-tu down? Moi, je suis down, man.
Je suis down en tabarnak.
Oh, Belal, les deux gars sont très drôles, man.
Mais Belal, ça en est un autre qui va être fâché parce que l'autre, il parle trop, là, d'après moi. Tu sais, Belal, il est drôle, mais il est plus sérieux quand il se bat. Quand Kevin Holland, qui est juste là, est un nasty de clown là, la majorité du temps. Ceci étant dit, avant de parler du reste de la carte, on va aller à Carabine d'or parce que ça va peut-être nous aider à nous orienter sur qu'est-ce qu'on a envie de parler, qu'est-ce qu'on n'a pas envie de parler, parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Je ne sais pas jusqu'à quel point les choses voulaient dire de quoi. C'est ça l'affaire, mais Carabine d'or, à l'instant même.
Hey yo, what it do, bande de cyclopes mal baisés? Ici Maxime Carabine, en direct du Hype Oak Podcast, pour remettre la carabine d'or du gala UFC Fight Night, Vegas 22, Holland face à Bronson. Grosse soirée, remplie de KO, les chums. Tai Tuivasa n'a fait qu'une seule bouchée de son adversaire, Honeysucker. Max Payne Griffin a failli mettre la main sur sa deuxième carabine d'or avec un KO percutant. C'est le premier combat de la soirée, Bruno Silva, a.k.a. Paul Tanniese, est allé d'une performance spectaculaire. Un spinning back elbow pour finir le premier round puis a terminé son adversaire au deuxième round. Adrian Yanez nous a montré qu'il était vraiment un prospect à surveiller dans les 135 livres avec une boxe mexicaine impeccable puis a mis KO son adversaire au troisième round. Mais vous le savez déjà, la carabine d'or, elle s'en va directement à Grant Dawson, qui est allé d'un buzzer beater démoniaque, un ground and pound venu d'ailleurs. Il a tellement pété à gueule à son adversaire qu'il a fait perdre son mouthpiece. Grant Dawson mérite sa première carabine d'or. Attention à vous autres, les chums. On se voit la semaine prochaine.
Boom. Je pense que c'est bon en disant que c'est comme le highlight de la carte, selon moi. Combat où, étrangement, ils ont dit sur les cartes des juges qu'il y a des juges qui avaient Dawson en avant 2-0 dans ce combat-là. Moi, j'avais absolument le contraire, tu comprends? Là?
Ben, je vais être bien franc avec toi. Moi, le combat en tant que tel, j'ai pas tant regardé, man, mais
Basically, t'as...
Ce que j'ai vu, moi aussi, là.
T'as Grant Dawson qui allait de l'avant. Puis qui lançait genre des gros overhand puis des gros punch qui loupaient bien gros. Puis Santos faisait ce que Santos fait, c'est-à-dire qu'il était sur le basic puis il counterait. Puis il counterait avec quand même pas mal de précision, je te dirais. Peut-être que le deuxième round, j'aurais pu le donner à Grant Dawson, mais honnêtement, je pense qu'il n'y a aucun doute que le premier round là, il est en faveur de Leonardo Santos. Là, genre, aucun doute selon moi. Troisième round, par exemple, Dawson a vraiment pris le contrôle. Il a réussi à prendre le dos de son adversaire. Il n'a pas réussi à rien faire avec ça parce que Chris, ce BJJ World Champ, Leo Santos, penserait pas que tu...
Ça ne l'énerve pas trop. Là.
Que tu, ouais, c'est sûr que tu fasses grand-chose quand tu prends son dos. Mais... Écoute, Léo a fait une erreur là, dans ce combat-là, tout simplement, afin d'essayer de sweeper un peu fancy avec un leg lock quand il restait juste quelques secondes au combat. Puis, il a mangé des hosties de gros hammer fist super précis. Puis, il s'est fait éteindre, là, éteindre solidement. Puis, c'est plate pour Léo, parce que moi, comme Léo, je l'aime bien. On s'entend, ce gars-là, c'est genre pratiquement un de mes coachs, puisque dans le fond, nous autres, Nova Unia au Canada, qui est vraiment la deuxième division la plus importante de Nova Union. Là, somehow, là, le deuxième pays au monde où Nova Union est le plus fort en dehors du Brésil, c'est au Canada.
Ah ouais.
Il y a beaucoup de gyms. Il y en a comme 3-4 gyms bien forts dans la région de Toronto, dont justement le gym de Wagner Fabiano, qui est ben, le gars qui nous signe nos diplômes et qui nous donne nos belts. Avec mon coach, est maintenant Black Belt, fait qu'il peut nous donner nos belts aussi, mais les diplômes viennent... c'est Wagner qui est fait venir du Brésil à Toronto puis qui nous les envoie. Puis il faut que tout soit approuvé par Wagner avant qu'il y ait des changements de ceinture puis tout. Puis Wagner, c'est le frère à Léo. Okay. Fait qu'à chaque fois qu'on va à Toronto, ben on s'entraîne avec eux puis tout. Puis tu sais, Léo, il vient donner des séminaires, il donne vraiment des bons trucs. Et ben, il nous donne une coupe de sweep qui ont bien gros aidé ma game en joue. Fait que moi, c'est sûr, Léo Santos, je joue de fucking gros pour lui. Puis c'est plate que genre sa première défaite dans l'UFC arrive de même à une seconde de la fin du combat que selon moi,
il a gagné. Passé longtemps, il manquait un petit bout.
Ouais, mais si c'est vrai que Dawson est en avant, sommaire, ses cartes des jeux, j'aime quasiment mieux que ça finisse de même que sa première défaite dans l'UFC soit un hostie de split decision de marde que tout le monde pense qui aurait dû gagner, mais qui a perdu parce que les juges sont clairement cons.
That's the MMA shit, man.
Ouais, that's the MMA shit. Une autre affaire, moi, que je veux absolument parler, puis c'est une des choses que Carabine n'a pas mentionné, mais le gros, c'est ma nouvelle girl, man. Montserrat Conejo.
As-tu craché dans la face de l'autre bitch, man? Non, mais j'aimerais dire que c'est elle la bitch, là.
Ouais, c'est elle la bitch, man. Mais gros, man, je l'avais dit dans mon preview, c'est la female Alexei Oleinik, man. Puis c'est direct ça, le gros. Elle fait juste essayer de clincher à tout prix pour te pogner par la tête puis te lancer. Puis ouais. D'être dans l'esti de position bizarre d'être là.
Ça se passe, c'est grosse faufoune, c'est toi, man. Puis t'as
fait combat, man. Puis c'est pas beau à voir, mais pas beau à voir, pas en tout. Mais calisse que c'est drôle qu'un style de même, ça marche en MMA, man. Fait que The Female Alexei Oleinik, man, j'y donnerais la Faber d'or juste pour ça, calisse, parce que sacrament. C'est quoi tu veux de plus qu'un deuxième Alexei Oleinik? C'est tout ce qu'on a besoin, là.
Mais surtout plus jeune, là.
Ouais.
Surtout plus jeune, mais il ça n'a pas bien été hier gorge, pour la famille Baez.
Pas très bien été pour la famille Baez.
C'est plate, man. Je trouve ça cool, man. Le mari et sa femme, c'est en même
temps. Ça va aussi bien pour eux que pour Mark et Montana de la Rosa.
Ouais, je pensais que t'allais me coller Paige Van Zandt puis l'autre.
Oh, gros, Austin Vanderford, il est crissement bon, man.
Je sais qu'il est bon,
Paige,
man.
Au moins, Paige, elle s'est arrangée pour que son petit boy, ça soit genre un legit bon fighter.
Oh, c'est vrai qu'il est bon pour vrai. Faut lui donner. Ben,
il n'y a rien à dire là-dessus. Elle a pogné la fin en scarf. C'était hilarant.
Elle a craché d'en face, man. Puis elle a dit qu'elle ne l'a pas fait. Gros, j'ai vu toutes les
vidéos. Ouais, j'ai pas investigué. Moi, je vais t'avouer. Gros,
j'ai vu les vidéos de tous les angles. T'avoues, là, se crinquer, moi. Tu vois pas le shit, là.
C'est quand même bad. C'est quand même bad.
Gros, c'est...
Parce que moi, le gros, faut que je te fasse la confession que... La main card à 10h, là, je trouvais ça rough, man. Je m'étais mentalement, on dirait, je ne sais pas pourquoi, le gros, je m'étais mentalement conditionné à m'endormir pendant Marion Renault contre Messi Chiasson. Genre, je le savais, genre, je m'étais mentalement conditionné, genre, que ce combat-là allait me faire pass out. Puis il m'a fait pass out. Puis quand je me suis réveillé, ben, j'ai vu la fin du 5e round, puis Derek Brunson gagner. Puis là, je me suis recouché. Et puis, ben, je me suis réveillé à 4h du matin, puis là, j'ai réécouté ça, puis finalement, Marion Renault contre Messi Chiasson, c'était pas si mauvais que ça, finalement.
Non, écoute,
comparé mal, c'était pas un bon combat, là, sous aucun prétexte. Mais
c'est pas chic, man. Tu sais, ouais. Demain ici, Chasson, puis Renault, man. Ça existe, là, c'est ça. Moi,
c'est ça. Qu'est-ce que tu veux? Je pense Adrian Yanez, c'est un de ceux qu'on peut porter un petit peu d'attention sur lui. Parce que moi, dans le fond, ce gars-là, il m'a toujours très impressionné. Le problème, c'est qu'il a rarement gagné un combat qui a passé le premier round. Tu sais, le gars-là, il a déjà perdu contre genre Domingo Pilarte, là, puis des gars quand même random, OK? Fait que je me disais, tu sais, Gustavo Lopez, qui est littéralement bon dans rien, mais... pas mauvais dans tout, genre.
Ouais,
il va être capable de, genre, varier ses strikes avec ses takedowns, puis, genre, d'y donner un bon test, puis ça m'aurait pas surpris que Lopez gagne ce combat-là, même si j'avais pick Yanez. Puis le fait qu'il soit juste capable, là, pendant 3 rounds, que son niveau d'énergie diminue jamais, que son output diminue pas, que son speed reste le même, qu'il a une belle performance constante, puis d'aller chercher un beau KO au 3e round, c'est exactement ça que j'avais besoin de voir, là, pour un prospect comme lui, puis... Je vais être excité pour la suite des choses quand il va se pogner contre des gens qui existent un peu plus.
Solide performance du kid, man. Pour vrai, je savais pas tout son background comme tu viens de l'expliquer, là, mais Chris, il en parlait, man, comme un high prospect. Puis il a forcé d'admettre qu'hier, man, il a donné raison, man, aux gars qui le mettent dans cette position-là.
Ouais, définitivement. Sinon, ben, il y a le co-main event, là, juste pour dire que c'était nice. Max Griffin, il est tout le temps cool, mais.
Ouais, mais c'est là, c'est pour... deux gars qui knock, va bien se faire knocker le prochain combat, là.
Ben, c'est jamais fait knocker, Max Griffin.
Ben, je veux dire qu'il va perdre, là.
Genre, oui, il va perdre, absolument, mais c'est jamais ce gars, justement, qui
suit
un peu beaucoup pas mal sur son menton, puis qui vache comme un fou sur ses adversaires.
Ouais.
Ben, tu sais, la seule affaire que je veux dire sur ce combat-là, c'est que, tu sais, j'ai mon ranking, là, moi, avec tous les fighters, puis... Je pense que ça représente bien la carte d'hier, le fait que les deux fighters dans mon co-main event étaient comme rankés 80e au monde à 170 livres là, dans mon ranking. Puis, oui, ça a été nice, c'est un beau knockout, c'était excitant, mais c'est vraiment ça la carte qu'on a eue hier. Là. On n'a pas vraiment eu de top-level talent. Le seul top-level talent qu'on a eu, basically, c'est le main event. Puis c'est le combat de Marion Renault contre Messi Chiasson. Puis le fait que Marion Renault et Messi Chiasson sont du top talent dans leur division, ça fait juste te montrer dans quel genre de division
ils sont. C'est une carte de transition comme en soir Fastlane.
C'est méchant. Et être comparé au pay-per-view le plus inintéressant de l'année, Fastlane.
Ouais, c'était digne. C'est... En tout cas, si c'était pas le... Ça passera pas à l'histoire, là.
Non, définitivement pas. C'est comme si t'étais là, puis tu l'as checké, puis t'as vu des knockouts, t'as vu du monde se faire finir, t'as vu des affaires excitantes, t'as vu Kevin Holland pas se faire ma gueule pendant 25 minutes. Puis je pense pas que tu t'es dit « Oh, j'ai vraiment perdu 5 heures de mon temps. » Mais si tu l'as pas vu, t'as pas manqué aucun développement historique dans l'histoire des Omazo Mix.
Non, exactement. Tu sais, je veux dire, pour un hardcore, ben moi, c'est sûr que je suis content quand il y a des cartes à tous samedi. Mais tu sais... Mettons, si je prends la carte de là 2 semaines, l'écran majeur dans le salon, c'était UFC, puis le Canadien était sur l'écran secondaire. Ben là, hier, le temps de la game, j'ai focusé sur l'hockey pas mal plus que... Ouais, c'est ça, exactement.
Je peux comprendre. Parlons de choses excitantes maintenant, parce qu'il y avait une carte d'Abu Dhabi Warriors, qui est une très belle promotion. Puis, détrompez-vous pas, il n'y avait qu'un seul combattant canadien sur la carte.
Yep.
C'était Corinne Laframboise.
Yes, sir. Shout out à Corinne. Man.
Corinne, là. Elle les gagne pas toutes, mais calisse qu'elle a du cœur, man. Que c'est
une... J'ai vu des tapes, là. Ah ouais.
Dans l'âme, là, c'est une fighter. Ah, parce que le premier round de ce combat-là, écoute, moi, j'ai une très bonne mémoire de ce combat-là parce que Charles, il voulait que j'y live texte ce qui arrivait parce qu'il était à la clinique. Oh. il pouvait pas, genre. Il s'en allait de la clinique, il était dans son auto. Fait qu'il dit ah, FaceTime-moi pas parce que j'aime mieux conduire qu'écouter le calice de fight en conduisant. Puis tu sais, ça peut être dangereux. Fait que j'ai envoyé comme les live texts de ce qui arrivait. Basically, lors du premier round, ils ont échangé debout, elle et son adversaire qui était Malin Hermansson. C'est une Suédoise qui avait une fiche de 5 victoires, 2 défaites, une bonne prospect. Une autre Suédoise? Ouais, une autre Suédoise. Et puis, c'est une très bonne prospect, là, 5-2, elle arrivait, puis était probablement favorite, là, selon les gens de là-bas, pour battre Corinne Laframboise. Les deux ont échangé debout, et puis, pour vrai, je pense que c'était très serré. Là. Il n'y a pas eu personne qui a fait du dommage ni rien, mais Corinne, selon moi, avait le dessus debout.
Ah ouais?
Vers 2 minutes et demie, elle a essayé un takedown. puis elle s'est faite renverser. C'est son adversaire qui a eu le takedown. Elle a réussi à prendre le dos à Corinne, puis elle a passé un rear naked choke, mais il était passé, là, le rear naked choke. Il était en dessous du menton, puis tout. Mais elle a juste pas bien caché sa petite main. Là. Sa main était pas sur la tête, okay, comme Mandy Baum contre Jade, wow, mettons. Un peu en arrière, mais elle n'était pas super bien cachée. Puis Corinne, elle va essayer de ne pas se faire soumettre puisque c'est une championne du monde de Jiu, Brown Belt. Fait que tu essaies de ne pas te faire taper genre la majorité du temps.
Non,
fait qu'elle a réussi à aller chercher à la main. Elle s'est sortie du choke. Elle a survécu au round. Elle l'a clairement perdu, mais elle a survécu. Deuxième round, même scénario. Ça échange debout. Probablement Corinne qui a le dessus sur son adversaire, même si c'est son adversaire qui est la boxeuse puis la striker, tu sais, des deux, là. Puis, à peu près le même timing, Corinne pogne un body lock, puis elle a takedown, puis elle a takedown direct en side control.
Oh boy!
Fait que là,
la position, tu veux pas tomber.
T'essayes de pas être là, t'essayes de pas être là, OK? Donc là, t'as son adversaire qui essaye de bouger un peu, de scramble. Corinne prend son dos, essaye le choke. Beau choke, bien passé, mais son adversaire défend. Est obligé de donner le mount parce qu'elle veut pas avoir Corinne dans son dos. Ouais. Corinne commence à travailler en full mount. Son adversaire utilise la cage un peu avec ses pieds pour essayer de faire un okay, bon bump. Puis elle a réussi à pousser Corinne, mais Corinne, elle prend le bras en tombant sur le côté. Puis elle a réussi à passer un armbar. Son adversaire résiste. Ça finit un peu genre dans le dos. Elle a un genre de triangle inversé. Elle essaie de tirer l'armbar. Travaille une trentaine de secondes. Puis finalement, elle réussit à prendre la clé de bras, puis à l'appliquer, puis à soumettre son adversaire, puis à récolter la victoire. Man, crise de belle victoire qu'elle a travaillé fort pour. Soumission deuxième round par armbar. Puis Chris, à Abu Dhabi Warriors, là, on s'entend
belle
que
c'est... organisation, man.
Oui, puis elle a perdu contre qui? Genre Manon Fioro?
Ouais, ouais, c'est ça, Chris. C'est pas,
on s'entend,
c'est,
là?
C'est une défaite c'est une défaite qui, de plus en plus, vieille bien là, sur une fiche.
Exactement, fait que gros shout-out à...
C'est vrai, hein, cette fille-là, man, là, il faut lui donner un affaire là, de toutes les... Malheureusement, je l'ai pas, j'ai pas écouté ce combat-là, mais s'il y a un affaire depuis que je sais c'est qui Corinne Laframboise, man, quand elle rentre dans la cage, man, elle donne tout, mon gars, puis tu vois que la fille en dedans d'elle, c'est une vraie fighter.
Absolument. Sinon, on avait... Ce que j'aime dire, puis je sais que c'est pas fair de dire ça, là, mais le vrai retour du MMA canadien. Parce que la fin de semaine dernière, on avait une carte qui était le Rise FC 6, mais il y a eu beaucoup d'annulations, puis tout. Fait qu'il y a eu comme 3 combats dessus. Puis oui, c'était le premier événement à être de retour, puis c'est vraiment le but que Rise FC s'était donné, puis ils ont réussi, puis shout out à eux. Mais c'est la première carte complète de combats professionnels d'MMA canadien, que tu n'as pas besoin de te péter un bras en 1000 pour trouver la place où tu peux la regarder en live. C'était le BFL 66. Puis pour vrai, on a vraiment un Chris Event. Je pense que oui. Mais bref. On a vraiment eu un excellent événement. Ça, as-tu eu la chance de le voir, le BFL? Ou...
Je l'ai regardé, pas complètement, mais Chris, man, il y a eu des finishes. Mon gars, j'ai parti ça du début. J'ai pas, à vrai dire, j'ai checké les combats de début de carte. J'ai pas eu la chance de finir la carte encore, là, mais je vais la finir parce que justement, tout le monde m'a dit que c'était débile. Mais tabarnak, ça tombait comme des mouches, mon gars.
Yup, quand on vous dit de pas impliquer les juges dans votre combat, c'est définitivement une carte où les juges n'ont pas été vraiment nécessaires. Ils ont juste été nécessaires sur le premier combat. Puis écoute, quand tu as vu le premier combat, il n'y avait pas vraiment de doute de qui l'avait gagné à la fin. Ouais. Là, fait que les juges n'ont pas eu trop eu à se casser la tête là-dessus. Mais écoute, dans le main event, mon gars, là, Achilles Estremadura, à son dernier combat, il m'avait déçu parce qu'il se battait contre un dude qui se nommait Kerry Latimer et qui avait une fiche de 14 victoires et 26 défaites. Puis il l'avait collé dans la cage puis il l'avait amené à une décision Tyron Woodley-esque de 25 minutes. Puis j'étais le gros, je peux pas croire que ça vient d'arriver puis que tu viens de faire ça, Big. Puis je ne sais pas ce qui était arrivé dans son camp d'entraînement ou avant ce combat-là pour qu'il aille à se battre de même parce que c'est pas ça qu'il fait d'habitude. Hier, il se battait contre Curtis DeMars qui, définitivement, ben hier, c'est vendredi en fait, là, se battait contre Curtis DeMars qui a définitivement pas la meilleure fiche. Là. Il était 18-15 avant l'arrivée dans ce combat-là, mais c'est un gars qui, genre, vraiment un BMF canadien, là, dans le sens qu'il va pogner n'importe quel combat à n'importe quel temps de préavis contre n'importe qui, n'importe où. Fait que, tu sais, souvent, le gars, il est arrivé en Alberta. Lui, il vient de Winnipeg, en plus. Fait que c'est pas comme s'il y avait beaucoup de combats au Manitoba, tu sais. Fait que, mais en Alberta, il est pas chez eux. Au BC, il est pas chez eux. En Ontario, il est pas chez eux. Au Québec, il est pas chez eux. Puis, il arrive là une semaine de préavis contre le favori local, fait un esti de combat serré, puis paille la split decision. C'est l'histoire de sa carrière, là, ce gars-là. Les split decisions, là, sur sa fiche, là, il y en a une puis un autre, là. Jack, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 split decisions.
Ouais, sur main, tu compares à Masvidal.
Exactement. Fait que, tu sais, tu vois un peu le profil. Puis, c'est ça. Il est arrivé contre Achilles. Puis, encore une fois, c'était pas les conditions. Tu sais, je pense qu'il est allé en Alberta s'entraîner, basically, dans la cave de Jesse Arnett, là, pour ce combat-là. Là. Je pense que c'était ça le setup.
Il s'entraînait-tu vraiment ou.
Oh, oui, ils se sont entraînés. Mais gros, Achilles, il est arrivé. Puis, il a lancé, là, punches and bunches, mon gars. Là, des combinaisons. Puis, des combinaisons, là, de 4-5 hook au corps consécutifs. Puis. Quand la garde a baissé, tu l'as pogné avec un petit left hook sur le menton, puis tu l'as allumé bien raide. Un peu comme le combat qui s'est fini par left hook, là, que c'était-tu Ivan ou c'était Gio Platon, là, je me rappelle plus c'est lequel des deux, mais les deux, trois premiers combats, là, le combat s'est fini avec un left hook en quelques secondes. Là. Un peu le même genre de knockout, ça a pris une minute 27.
Je me rappelle pas des noms, là, mais je sais que c'était de la partie que j'ai regardée, mais c'était nice, là.
C'est ça. Fait qu'en tout cas, Achilles, là, performance absolument incroyable dans le main event. Ce gars-là peut avoir une couple d'autres combats, va commencer à être dur à dénier pour une place dans l'UFC dans pas long. Là, il est rendu 7-0. C'est sûr que 7-0, c'est peut-être peu d'expérience pour à 155 livres. Mais
wow, big. Ça m'a donné, man. Wow, 7-0, ça, tu commences à parler. Là.
Mais tu sais, il nous l'a montré le trait de prospect de genre, s'il a gagné un combat, il est game de prendre la manière plate pour le faire. Mais il est aussi game d'arriver et spammer des body shots jusqu'à temps qu'il knock son adversaire Barrett avec un hook en 1 minute 20. T'sais? Fait que le gars, il est capable des deux. Puis moi, personnellement, j'ai envie de le voir dans l'UFC. Dans le main event, c'était Caio Machado contre Lee Mean. Lee Mean, c'est un esti de warrior. C'est le père de Jordan Mean. Là. Puis il a 53 ans. Puis il avait une fiche de 11 victoires, 14 défaites. Mais.
C'est sérieux, ça, là?
Gros, c'est absent pour ça, sérieux. C'est le père à Jordan Mayne, le coach à Jordan Mayne, puis à tous les fighters qui s'entraînent là. C'est un très gros gym, là, d'ailleurs, là, le Canadian Martial Arts Center, c'est un gros gym.
Il a passé ses médicaments.
Big, avant ce combat-là, Lee Mayne avait remporté 5 de ses 6 derniers combats, puis il avait
à part 5 de ses 6, puis tu m'as dit qu'il était 11-14.
Exactement, il était 11-14, mais il venait de gagner 5 de ses 6 derniers combats. Sa seule défaite, c'était un combat de championnat au Unified contre Christian Larson, qui est le training partner de fucking Tanner Bowser, là, qu'on s'entend, c'en est un sérieux. Puis avant ça, sa dernière défaite remontait à 2014, où il avait perdu contre Tim Hag, le très mort Tim Hag. Tu comprends? Fait que Lee Mayne, là, à 53 ans, là, avait gagné 5 de ses 6 derniers combats. Puis Callis, il a vraiment donné tout ce qu'il avait. Il est arrivé là, il a swingé du ladder comme un bon vieux bonhomme de 53 ans. Il a pas mis Kai Machado dans le trouble, mais il a forcé Kai Machado à brawler avec lui. Puis ça aurait vraiment pu aller d'un côté comme de l'autre jusqu'à temps qu'il se fasse allumer ben raide à 3 minutes 27 du premier round. Puis que Kai Machado gagne, puis que, tu sais. Call-out à lui. Il n'y a pas call-out Mick Dufort parce que Caio Machado, c'est définitivement pas le Brésilien qui se bat au TKO, mais bien le heavyweight de Vancouver.
C'est vrai.
Qui est aussi un Brésilien d'ailleurs parce qu'il s'appelle Caio Machado. Là, c'est sûr c'est un Brésilien. Mais c'est le Caio Machado de l'Ouest canadien qui devrait descendre à 205 livres là, d'ailleurs, essayer d'aller chercher deux belts. Il a callé sa shot dans l'UFC, là, mais ça fiche ses 4 victoires, une défaite avec un draw. Bats-toi encore un peu, mon petit chum. Définitivement, le prospect qui pourrait se rendre dans l'UFC, là, mais peut-être pas rendu là.
BFL, sauf ça, ça peut être des bonnes nouvelles pour Dufort, ça?
Ouais.
BFL Killstar?
Définitivement. Surtout que on a un certain Dario Sinagoga qui disputait son 4e combat professionnel, OK?
Sinagoga?
Oui, c'est un Irlandais. C'est un Irlandais de 155 livres. Okay. Hier, il affrontait Craig Shintani, qui avait une fiche de 9-3, qui était un top 10 lightweight au Canada là, depuis des années. Là. Un gars que, genre, tu sais, tu regardes sa fiche, ses dernières défaites, là, c'était contre Neil Anderson, Mike Mallett, genre, tu sais, des gars qui sont rankés et qui sont bons au Canada, qui ont des fiches genre de 10 victoires, quelques défaites, là, puis qui sont dans l'élite canadienne. Puis Craig Shintani, il y a l'underbow takedown sur Sinagoga. Sinagoga a réussi à se relever. Il y a eu des échanges dans le clinch. Puis un moment donné, Sinagoga s'est retrouvé, tu sais, dans la fameuse position que tu as le dos de ton adversaire, puis lui, il a ses mains à terre.
Ouais.
Puis il a commencé à rain des uppercuts de même à une main. Puis gros, il te l'a allumé
raide. Par en dessous,
ouais, puis il a eu le finish de même. À 1 minute 35 du début du combat. Fait qu'à son quatrième combat pro, là, Sinagoga tombe 4-0 puis vient de battre un top 10 lightweight au Canada. Puis est quelqu'un que clairement là, BFL veut pousser là, comme étant un futur title challenger, un futur gros combattant là, pour cette promotion-là. Donc oui, ça, c'est des bonnes nouvelles pour Mick Dufort parce que finalement, le top 10 canadien, il est en mouvement non seulement, mais en mouvement avec des gars qui se battent ici.
Ouais, ça,
parce
c'est
que là, si tu checkes le top 10, t'as Rolly Aubin qui se battra jamais contre Mick parce que c'est pas mal qu'ils font dans le gym à longueur d'année. t'as Tom O'Connor, Craig Hudson, Scott Hudson sont Scott. En train de se battre pour XFC dans le tournoi lightweight. T'as beaucoup de gars qui sont là à se battre aux États-Unis puis ils sont pas, tu sais, Zachary Powell se bat au CFFC. Mais pas aussi,
je veux pas voir, ben j'aimerais ça un jour le voir, mais pas tout de suite.
Powell, puis il se bat pour le striker, en fait.
Ouais, c'est ça. Il
se bat pour CFFC, mais bref, tout ça est pour dire que on a des gars au poids du fort qui se battent au Canada. Fait que ça peut être intéressant pour lui. Sinon, on a Karen Cameron, qui est probablement le Johan Lennes de l'Ontario. Là.
OK.
Un très bon prospect qui avait du succès chez les amateurs qu'on attendait chez les pros, qui continue à avoir du succès chez les pros. Et monté à 5-0 face à Keenan Keller par E-Look, mon gars, man. Ça s'est échangé au sol. Il a essayé un leg lock. J'étais là, je sais pas si c'est une bonne idée. Puis là, finalement, j'ai vu qu'il était crissement à D puis sa jambe. J'étais là, peut-être une bonne idée. Essaye-toi. Puis il s'est essayé. Puis là, E-Look. Puis il a gagné au premier round. Au deuxième round. Non, premier round ou premier round, exactement. Sinon, d'autres gars à 135 livres qui. Autant dans l'UFC qu'au Canada, ça s'en vient à la meilleure division partout. Là. Puis t'as Ali Wazouk qui a battu Craig McLean. Craig McLean qui est un gars qui était ranké dans le top 10 au Canada. Ali Wazouk l'a battu, monte sa fiche à 4-1 après cette victoire-là. C'est un René Kitchuk au deuxième round. Fait que shout-out à lui. Puis au début de la carte, comme tu disais, il y a eu trois débuts professionnels. Gio Platon, un KO en 27 secondes. Ivan Rychuk, qui est l'Ukrainien, le gros Ukrainien avec les cheveux bleus. Que lui avec le 39 secondes, puis il y a knocké le pauvre Drayton Angus qui savait exactement pourquoi il était là. C'est de ça qui est arrivé. Puis Indrup Verk dans le premier combat, une belle victoire par décision contre Matt Dawson. Victoire impressionnante parce que Matt Dawson était 2-0 déjà chez les pros, contrairement aux deux autres qui se sont battus. Tyler Nicholson était 1-4, Drayton Angus était 7-9, 7-10, de quoi de même. Fait que les deux autres se battaient contre des gars qui ont des fiches perdantes, sont un peu, entre guillemets, des jobbers. C'était pas le cas pour Verk, puis il est allé gagner là, contre Matt Dawson, qui a quand même un beau futur à flyweight avec une fiche de 2-1. Fait que des bons petits prospects canadiens qui sont là. Qui sont prêtes à devenir meilleurs, puis à peut-être être dans l'UFC un jour, puis nous donner une meilleure vague qu'en ce moment. Parce qu'on a du monde à root pour, mais on n'en a pas assez, man. Je le dis à toutes les semaines, on n'en a pas assez. Il y en a qui méritent d'être là. Il y en a un qui méritait d'être là, vient peut-être de perdre sa chance d'être à l'UFC en 2021 parce qu'il s'est fait knocker ben red dans le main event du Abu Dhabi Warriors. Mais en tout cas, c'est pas grave, c'est pas pour celui-là que j'aurais rooté s'il était dans l'UFC.
J'ai pas entendu parler, je sais pas, non.
Ouais, c'est le combattant d'origine marocaine. Là. Je sais pas
ouais,
si
c'est ça.
En tout cas. Dernier sujet.
Je vais m'abstenir.
Dernier sujet.
Pas qu'il débarque chez nous, est-ce-t-il?
Bon, on sait jamais. Hein. Il pourrait être fâché parce que t'as dit de quoi il y a 2 ans, tu sais.
que t'as juste fait ta job, là, puis t'as dit qu'est-ce que tu veux dire, en tout cas.
Ceci étant dit, c'est le retour des partisans, mon gars.
Oh shit, c'est tellement. Mais premièrement, moi, je suis content. Je suis content pour ma petite personne. Je sais pas si je suis tant content pour les fighters. Typique UFC, man. Floride, ouais. UFC, Dana White, ouais. Coronavirus. What the fuck is that? On taxe ça, mon gars, une personne. Veux-tu m'expliquer comment une semaine avant, tabarnak, ils vont faire les procédures, resti, les... Puis arriver en Floride la semaine d'après, Carlis, puis genre... Je comprends pas, man.
J'espère que les procédures vont continuer quand même.
J'espère, tabarnak.
Pour les fighters, genre.
Ben oui, man, puis...
C'est ça, c'est que t'amènes un bon point, mon gars, parce que, tu sais, je ne sais pas comment me sentir par rapport au retour des partisans, genre, vraiment pas. Puis, tu sais, je veux pas être le gars qui est genre, oh, mais non, la COVID, nanana, parce que moi, tout, je suis le premier à ce que quand, ouais. Genre, tu sais, si on a une critique à faire par rapport au gouvernement du Québec... C'est probablement qu'ils mettent trop de restrictions. Probablement qu'ici, ouais. Même vous autres en zone orange, moi je suis en zone rouge, vous autres en zone orange, même vous autres, vous avez encore probablement trop de restrictions. Tu comprends? Mais j'ai au moins la certitude que le jour que tout va rouvrir à 100%, ça va être 100% sécuritaire, genre. Mm-hmm. Parce que le gouvernement, justement, il est très careful par rapport à ça.
Ouais.
Puis si j'avais le feeling que la réouverture, puis le fait qu'il y ait tout plein de partisans dans un stade, pas de masque, pas de distanciation, puis toutes ces affaires-là, si j'avais le feeling que c'était bien fait et fait de façon sécuritaire, je serais le premier à être colissement content. Mais sacrement, c'est en Floride, puis je peux pas te rester à Floride, là. Je peux pas.
T'as-tu vu le Spring Break présentement en Floride?
Oui, j'ai tout vu, j'ai tout vu.
C'est 5000 cas par jour qui passent.
En mars passé, le gros, c'était ça, là, en Floride, puis le Spring Break, puis on était là, ça n'a pas de calice d'allure. Puis un an plus tard, c'est la même affaire. Donc, genre, même au Texas, où il va y avoir le prochain gala pay-per-view, puis il va y avoir des partisans, puis tout. Même là, je suis plus...
C'est vrai, en fin de semaine, il y a du monde, hein?
Il va s'en avoir du monde au 260? Non, c'est le 262, je pense, qu'il a annoncé pour Houston.
Fait que
Oliveira contre Chandler. Mais pour celui-là, on dirait que, pas parce que c'est plus tard, mais parce que le Texas, oui, ils ont réouvert et tout. Puis, tu sais, c'est un des États les plus redneck avec la Floride. Fait que je sais pas si ça va être fait 100% bien, mais je sais que ça sera pas fait 100% mal. Contrairement à en Floride, où je le sais que le protocole va juste être pas de protocole. Puis que Big
Florida.
C'est genre, ça serait n'importe où ailleurs. Ça serait n'importe où ailleurs. Puis je serais genre, je suis sûr que c'est correct. Puis c'est bien fait. Puis en Floride, je le sais que ça va juste être un super spreader event. Là. C'est sûr que ça va être ça. Ça peut pas être autrement.
Là, préparez-vous. On va perdre des title fights. On va perdre des fights là-dessus.
Cette carte-là, ça va être un super spreader event. Là. Les mondes qui vont pogner le Rona après la carte, ça va être l'enfer. Là.
C'est incroyable.
D'après moi. Puis comme je te dis, je suis pas un gars qui est alarmé par la COVID, le partout. J'ai tout j'ai hâte que ça finisse. Moi, tout, s'ils disent que c'est assez sécuritaire pour réouvrir demain, je suis down que tout réouvre demain, puis je vais pas aller en public en ayant peur de pogner la COVID. Là. Mais de tabarnaquer un aréna rempli de gens en Floride, là où jamais personne n'a jamais pris aucune précaution ni rien. Je sais pas si c'est l'affaire à faire maintenant. Mais regarde, il avait dit qu'il allait être les premiers à revenir avec un full crowd. Puis Dana White, Asti, est aussi entêté qu'une mule. Puis il va l'être. Puis shout out à lui pour ça. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais il va le faire pareil que ça ne tente pas.
T'as-tu entendu quand même des. Ben, moi, je trouve ça nice. Le Canadien de Montréal est en discussion avec la santé publique pour rentrer peut-être de 2 à 4 000 personnes dans le Centre-Belle éventuellement.
Ouais, ben je suis down, j'irai pas, mais je suis down.
Non, mais tu sais, c'est juste des petites choses encourageantes, genre des petites affaires dans moi qui font que non, moi, en tout cas, ça me permet de faire « Ah, ben tabarnak! »
Tu vois, moi, j'ai de la misère à... J'essaie de pas me fier sur, genre, les politiciens en général.
Ouais, ben là...
Mais, genre, je comprends bien que parce que je suis pas un gars qui s'intéresse tant à la politique, mais je m'intéresse assez à la politique pour, genre, mettons, comprendre quand, oh, il va y avoir une élection, telle affaire, telle affaire. Puis, Justin Trudeau, pendant la COVID, de un, il a donné de l'argent à tout le monde.
Il a réservé. Trump,
non, mais à tout le monde.
À tout le monde, tabarnak.
N'importe qui, même les fraudeurs, n'importe qui. Il a fait aucun check. Il a juste donné 2000 pièces par mois à tout le monde qui voulait bien le réclamer. Puis, on checkera par après si c'est une bonne idée. Tu comprends? Puis,
Présentement, il a réservé des doses de vaccins en malades. Ces doses de vaccins-là commencent à être livrées. Puis on commence à se rendre compte que d'ici cet été, ça va être possible d'avoir vacciné beaucoup de gens. Puis ça, ça fait que Justin Trudeau a vraiment des excellents sondages en ce moment. Puis il est minoritaire. Puis il va tout faire, lui, pour être en élection avant la fin de l'année, avec ces sondages-là, pour se faire réélire majoritaire. Parce que Erin O'Toole, le nouveau chef du Parti conservateur, ça lève pas super gros son affaire, à part dans l'Ouest, mais l'Ouest,
qu'est-ce
c'est le
chef du Parti conservateur.
Parti conservateur, depuis un Stephen Harper, c'est vrai que ça lève plus fort fort. T'as le Bloc, qui va toujours être un problème au Québec, parce que si... Tu sais, parce qu'il faut que les libéraux aillent chercher des votes au Bloc québécois.
Ouais,
il faut qu'ils aillent chercher des blocs des votes au Bloc québécois pour rentrer majoritaire, mais ils sont tellement forts en Ontario, dans les Maritimes, puis tout en ce moment, qu'il y a des bonnes chances, s'ils déclenchent une élection, de rentrer majoritaire. Puis ça, ça fait qu'il va vraiment se forcer à livrer les vaccins pour vrai. Fait que, tu sais, il peut pas vraiment arriver puis nous dire de la bullshit, puis « Oh oui, tout le monde va être vacciné, puis on va réouvrir le Canada. » Puis parce que lui, son plan électoral, c'est plus gestion de pandémie. Il est basé sur la réouverture puis la post-COVID. Fait qu'il faut qu'il réussisse à mettre la COVID le plus possible derrière lui.
Pour c'est à notre avantage. Ça, il faut le dire, c'est
le fait que Trudeau veut être élu majoritaire, tout, c'est à notre avantage. Puis ça me porte à croire que oui, éventuellement, on va voir réouvrir à pleine capacité, du moins cet été, puis peut-être d'ici la fin de l'année au complet, si toute la vaccination, tout va bien, à cause d'un motif purement politique de Justin Trudeau qui veut se faire réélire, mais...
Chris, comme au moins, il va avoir fait de quoi de popper dans son endroit.
Comme je disais dans le cas de Black Lives Matter avec Donald Trump, si Donald Trump signe quelque chose qui fait un changement par rapport à la police ou n'importe quoi, puis que ce changement-là apporte du bien... Même si Donald Trump ne fait pas ça parce qu'il croit vraiment à ça, il fait juste ça parce qu'il voulait être réélu, la chose qu'il a faite, même s'il a fait qu'une mauvaise intention, si la chose qu'il fait amène du bien, c'est une bonne chose. Mm-hmm. C'est la même affaire en ce moment. Si Justin Trudeau vaccine le monde à côté, puis nanana, juste parce que il veut qu'un jour on revienne à la normale parce que ça va l'aider à être élu majoritaire, c'est pas une bonne intention qu'il a. Mais au final, nous autres, ça nous arrange parce qu'on revient à la vie normale, puis... T'sais, on commence à voir la lumière finalement au bout du tunnel de tout ce
Là, tu vois les affaires de suicide puis toutes ces astuces d'affaires-là, les violences conjugales même qui ont augmenté. C'est à prévoir, là. Mais c'est ça, là. Faut plus juste voir la lumière, faut passer le tunnel, là.
Exactement, c'est ça. Puis je pense qu'on est dans la bonne voie, là. Mon grand-père vient d'avoir son vaccin, les âges minimum de vaccin.
On va
voir
mes grands-parents après le podcast, justement.
Mes âges de vaccin commencent à diminuer de plus en plus. Fait que, tu sais, d'après moi, ça va bien. Puis on peut commencer à penser que, justement, dans pas long, on va pouvoir retourner voir, justement, les 2000, 4000 personnes à une game de hockey et tout. Moi, personnellement, tant que j'irai pas au Centre Bell avec un masque tout le long, écoutez, tu sais, regarde,
ça m'intéresse pas vraiment. Je vais y aller quand je vais. Ça va aller à l'année prochaine.
Ouais, quand on va pouvoir être 22 273 personnes dans le Centre Bell, puis que je vais pouvoir m'acheter des billets dans la zone Desjardins puis manger 384 hot dogs froids gratuits, j'irai pas, tu comprends? Mais regarde, c'est ça qui est ça. Puis tant qu'à continuer à parler de politique, je pense qu'on va juste end le podcast.
Ouais, je pense que c'est bon comme ça. Fait que. J'attends la boîte de 50 Monsieur Puff, puis je m'arrange avec la pizza Hut PFK.
Man. Yep, exactement.
Puis on fait un live, je pense. Tu veux-tu le dire? Ou?
Ouais, ben oui. Comme on a fait avec Charles Jourdain, on va définitivement faire un live pour le combat de Marc-André Barriot. Puis écoute, le gros, je le sais pas. Je veux pas nous mettre des attentes élevées ni rien, mais on checkera si c'est vraiment sa main card. Là.
Ouais.
On checkera comment ça va, puis au pire, on fera peut-être juste un live stream de la main card, genre.
Ouais.
Tu comprends?
Ouais.
Puis, évidemment, vu qu'il y a encore un couvre-feu, puis tout, je vais dormir chez Greg, fait que ça se peut même que le lendemain, on fasse le podcast.
C'est pas mal ça que je me disais.
Fait que la semaine prochaine, dimanche prochain, on va faire le podcast ensemble. Et
en zone orange, le gros.
En zone orange, puis le podcast. Puis on va faire un live stream pour le combat de Barrio puis tout. Fait que ça, c'est après la semaine prochaine. Puis ouais, la pizza, esti, les Mr. Puff.
Bon, la première personne que j'ai pensé quand j'ai vu l'association, j'ai fait damn.
Je sais pas à quoi je pense, mais ils ont une promotion où c'est que t'achètes une pizza puis t'as la deuxième gratuite. Fait qu'on pourrait essayer elle puis s'en pogner une plus conventionnelle tout sur le site.
Ouais, gros, il va avoir la
moi, c'est sûr, c'est sûr qu'en arrivant à Grimby, je vais aller me chercher des
Ben bacon. Oui, tu peux pas descendre à Grimby sans passer par le Ben.
Aller me chercher des petits Ben Bacon. Mais ouais, fait que, à suivre la semaine prochaine, les Ben Bacon, les live streams du combat Barrio, le podcast ensemble.
Soyez prudents, man, puis on se rejoint la semaine prochaine.
Yes, restez chill, il en reste pas long à toute la petite marde, guys, puis on se parle la semaine prochaine.
Je vais te crisser mon doigt dans l'air. C'est la hype, pas de calme. Je vais te crisser mon doigt dans l'air.